Le Mac de Cahors, c'est maintenant sur CFM Radio. Gilles Barret au micro, madame, monsieur, bonjour, bienvenue. Un magazine en deux parties aujourd'hui. La première, on va parler de la 17e édition du festival La Rue des Enfants qui va se tenir ce week-end, le samedi 12 et dimanche 13 septembre à Montcuq. Et en seconde partie, on recevra l'association Amigrants de Cahors. Du théâtre, du cirque, des clowns, des marionnettes, de la danse et de la musique et surtout des spectacles à partager en famille. C'est ce qui va se passer ce week-end à Montcuq. Bien écoutez, pour nous en parler, recevons le président, le directeur du festival, Frédéric Plic. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous Frédéric. La rue des enfants fête donc, je l'ai dit, sa 17e édition. 17e édition, c'est quand même pas mal quand même. Quand on arrive à une telle longévité, qu'est-ce qui fait selon vous que le festival continue à rencontrer son public?
Alors c'est son originalité déjà, puisque c'est un festival d'art de rue, mais aussi qui s'adresse aux jeunes publics, aux familles, mais aussi à tous les publics, puisque c'est avant tout un festival d'art de rue. Qui repose aussi sur une dynamique villageoise importante avec la mobilisation vraiment d'une communauté avec 150 bénévoles hébergeurs et puis une qualité artistique qui maintenant est reconnue bien au-delà des frontières du village et du Lot et qui fait que le public vient très nombreux chaque année puisqu'on attend chaque année autour de 3000 personnes.
Alors je disais, la particularité de la rue des enfants, c'est que Montcuq devient véritablement le décor du festival. Qu'est-ce que ça change comme ça pour les artistes et pour le public de jouer dans les rues, sur les places, les petits coins du village? Il y a un rapport, un échange particulier comme ça entre artistes et public?
Oui, bon, on a la chance d'avoir un très joli village avec au cœur même du vieux village médiéval des espaces qui se prêtent bien à accueillir des spectacles et les artistes sont toujours subjugués par les lieux où ils jouent. Ils n'ont pas forcément l'habitude de jouer avec des si belles vues et dans des lieux si jolis et cet enthousiasme, cette joie de jouer là est partagé avec le public. Et puis, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que la configuration du village et la fermeture du village fait que pendant tout le festival, les familles et les enfants sont en sécurité et peuvent se balader de spectacle en spectacle sans croiser une voiture.
J'imagine que vous travaillez en totale coordination avec la mairie.
Tout à fait, voilà. Vraiment... Il y a un soutien fort de la mairie, aussi bien financier que par les aides techniques de ses agents.
Alors, cette année encore, la programmation est particulièrement riche, électrique. Il y a du théâtre de rue, je disais, du cirque, des marionnettes, de la danse, de la musique, des clowns. L'objectif, donc, est une programmation capable de séduire à la fois les enfants et les adultes.
Oui, tout à fait. Voilà. Il y en a pour tout le monde. Donc, des spectacles à partir de 1 an, qui se passent surtout en matinée, et avec une représentation l'après-midi, dans des salles, donc dans des endroits un peu protégés qui permettent d'accueillir dans les meilleures conditions la petite enfance. Et puis ensuite, des spectacles tout public, avec plusieurs niveaux de lecture, qui s'adressent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et où on dit, chaque année, on dit, c'est la rue des enfants, mais c'est avant tout un festival d'art de rue où des adultes peuvent venir sans enfants. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus.
Mais ces spectacles pour les petits, c'est payant?
Oui, alors les spectacles sont payants, ouais. Avec une gratuité quand même jusqu'à 2 ans. Donc, si vous avez des enfants de 1 an, ben c'est gratuit. Voilà, on a toute une gamme de tarifs à la journée, à la demi-journée, au week-end, avec des tarifs réduits aussi pour les gens qui peuvent en bénéficier.
D'accord.
Ce sont des passes à la journée, en fait, qui te donnent accès à l'ensemble des spectacles.
Mais il faut réserver à l'avance, j'imagine, ou pas?
Non, c'est pas utile. Il y a d'accord. De la place dans le village, donc on ne fait pas de prévente. Il faut venir. Il y a 2 billetteries pour accueillir. Et puis j'ajouterais qu'on a quelques spectacles qui sont aussi en accès libre, gratuit. Et puis toute la partie village des enfants où on retrouve les animations, les ateliers cirque, le manège, les jeux en bois, etc., qui est aussi en accès libre et gratuit.
Alors, vous avez dit qu'il y a quoi, une cinquantaine de représentations, il me semble, au programme quand même.
Oui, c'est ça.
Est-ce que vous avez encore le sentiment de pouvoir surprendre le public avec après toutes ces années et de ne pas vous répéter?
Alors, oui, on les surprend chaque année parce que ce ne sont jamais les mêmes spectacles, voire même les mêmes compagnies. Voilà, c'est toujours de belles découvertes. Nous, on travaille toute l'année pour aller repérer ce qui se fait de meilleur et qui est accessible aussi à notre budget.
Eh oui.
Voilà, donc c'est toujours des belles découvertes. Chaque année, on essaye d'amener un peu des choses nouvelles. Cette année, par exemple, pour la première fois, on aura un spectacle en soirée à 20h30 avec Steve. Donc c'est une rockstar, c'est un spectacle un peu burlesque pour tous les publics. Et voilà, on tente de proposer un spectacle en soirée qui ouvrira une soirée musicale ensuite avec une fanfare et nos DJs.
Où est-ce qu'on peut retrouver toute cette programmation ? Sur un site, j'imagine ?
Toute la programmation voilà, se trouve sur le site lesartsdelarue.org. Vous aurez tous les détails, toutes les infos pour venir, toutes les infos de programmation. Et puis, on essaie de distribuer notre programme papier au maximum dans tous les lieux publics et commerces de proximité autour de Montouc et de Cahors.
En tant que président de ce festival, vous avez un coup de cœur pour cette édition ? Quelque chose qu'il ne faut absolument pas rater ?
Alors, oui, ça fait, ouais. En cirque, il y a le spectacle « Faudrait pas rester planté là » qui est un spectacle de voltige à vélo qui fera d'ailleurs le final du festival samedi après-midi. En théâtre de rue, je peux conseiller « Les Misérables ». C'est 5 comédiens qui jouent les 27 personnages de l'œuvre de Victor Hugo avec un rythme effréné, un très beau spectacle. En danse, le spectacle « Hors sol » de la forêt au béton, un duo de danse sensible et puissant sur le rapport à la terre et au sol. Voilà, on aura la fanfare Les Frères Poétards et puis aussi de la marionnette du théâtre d'objets et puis du théâtre de rue burlesque avec les tapas de Carnage Productions et puis le spectacle viril, la compagnie Les Barges, presque burlesque avec un triporteur.
Donc, si je comprends bien, pour que tout le monde comprenne bien, on rentre dans le village, c'est gratuit et on assiste au pas à des spectacles payants ou au profit des spectacles de rue.
En billetterie, on prend un pass voilà, sous la forme d'un bracelet qui donne accès au lieu de spectacle, mais on peut déambuler dans le village librement sans passer par la billetterie.
Et profiter de spectacles de rue, c'est ça, en même temps.
Voilà, et profiter de ceux qui sont en accès libre et puis du village des enfants.
Alors, pendant deux jours quand même, deux jours mon cul que va vivre au rythme des spectacles, on l'a dit. Vous avez dit que vous accueillez à peu près 3000 spectateurs en deux jours ? C'est beaucoup.
Oui, tout à fait, ouais. Ça en additionne. Oui, c'est énorme. Hein.
Ah ouais, c'est énorme. Hein. Je sais pas, au niveau de la sécurité, il y a une police municipale ou comment ça
non,
se passe ?
Non, mais non. Ça se passe bien. Voilà, il y a des parkings qui sont fléchés, donc on invite le public à aller dans les parkings et ne pas essayer de s'approcher au maximum du festival en voiture, parce que c'est un petit village.
Et oui, c'est ça.
Et puis tout se passe bien. Après, les gens se déplacent à pied dans le village.
Un petit mot sur les bénévoles, ils sont combien ? 150, vous avez dit tout à l'heure, il me semble.
Ouais, en général, c'est à peu près 150. Actuellement, je crois qu'on est là à 115 bénévoles adultes, plus une trentaine de jeunes collégiens.
J'ai lu quelque part, dites-moi si je me trompe, il y a des bénévoles, je crois, qui hébergent chez eux des artistes également ?
Aussi, oui, tout à fait. Tous les artistes sont hébergés chez l'habitant, puisqu'on... voilà, depuis la première édition, c'est comme ça, puisqu'on n'a pas d'hébergement collectif sur le village. Et puis ça favorise la rencontre entre les habitants du village et les artistes, et ça se passe toujours très bien, les artistes sont toujours ravis.
Alors ce qui pourrait prêter à confusion, c'est que le festival s'appelle la rue des enfants. Est-ce que ça reste pas, ça risque pas de porter confusion en faisant savoir que ce festival n'est pas réservé qu'aux enfants mais également aux adultes?
Bah, c'est ce qu'on essaie de dire. Hein. En effet, historiquement, ça s'appelle la rue des enfants, mais la programmation s'adresse vraiment à tout le monde, avec cette particularité par rapport à d'autres spectacles d'art festivals d'art de rue, c'est qu'on a quand même une programmation qui s'adresse tout particulièrement aux enfants et aux plus jeunes.
Alors, dites-moi, en tant que président, le festival, lui, se déroule donc dans un contexte où le spectacle vivant... connaît ici et là des difficultés où les financements publics des fois sont plus contraints. Est-ce que maintenir un événement comme celui-ci est devenu aujourd'hui un véritable acte militant pour la culture ?
Ah, tout à fait, ouais. Je crois fort, avec quand même des difficultés, puisque on tient à maintenir une programmation de qualité professionnelle, donc il y a un coût, avec des coûts de fonctionnement aussi qui augmentent, comme pour tout le monde. Donc c'est vraiment un acte militant qui demande beaucoup d'engagement de tous nos bénévoles. Cette année, les collectivités territoriales n'ont pas baissé leurs subventions, ne les ont pas augmentées non plus, alors que ça serait nécessaire, mais bon, au moins ça n'a pas baissé. On a juste eu un désengagement de l'État qui n'a pas renouvelé sa subvention, donc ça nous contraint aussi augmenter légèrement les tarifs, essayer de trouver un équilibre financier qui n'est pas du tout facile. Et en effet, s'il n'y avait pas vraiment du militantisme pour que ce festival existe au service de la population, ça serait très difficile.
Et puis, il faut rappeler quand même que sans argent, la culture, elle a du mal à exister. Hein. Il faut de l'argent pour pouvoir que la culture puisse se diffuser et continuer.
Tout à fait, oui.
C'est ça, hein, il ne faut pas l'oublier, ça, hein, bien sûr. La Rue des Enfants se veut également un festival éco-responsable, hein, je crois aussi. Concrètement, vous avez mis des choses en place pour, en ce sens pour le festival, sur l'impact du festival.
Oui, alors c'est les dispositifs classiques de réduction au maximum des déchets,
ouais.
D'une part, de tri, de compostage, l'alimentation qu'on propose aussi bien à la cantine du festival pour les artistes et bénévoles que dans notre troquet snack, c'est une alimentation entièrement locale et au maximum issue de l'agriculture biologique. Voilà, on a des toilettes sèches. Après, au niveau des énergies, on n'est pas un festival qui consomme beaucoup d'énergie puisqu'on est en journée. Donc, pas de questions particulières autour de l'électricité.
Oui.
On fait de notre mieux avec aussi un axe qu'on essaie de développer autour de la prévention des violences sexuelles et sexuelles et de l'inclusion des personnes qui ont des handicaps.
La tranche horaire, c'est quoi chaque jour?
Ça démarre vers 10h le matin, le samedi soir jusqu'à tard le soir, et puis le dimanche, ça termine vers 17h.
Frédéric, si vous deviez convaincre une famille là, qui nous écoute, des parents, des enfants, qui ne sont encore jamais venus à la Rue des Enfants à Montcuq, dans ce charmant village de Montcuq, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je leur dirais de venir découvrir ce festival, qu'ils auront plein de surprises. On propose toute une palette de propositions artistiques où tout le monde s'y retrouvera. Et puis surtout, il y règne toujours chaque année une ambiance magnifique, très détendue, très joyeuse. Qui sera cette année accentuée aussi avec la présence d'une fanfare, les frères Poétard, qui mettront encore plus de joie dans cette ambiance villageoise.
Merci beaucoup Frédéric Plic. Je rappelle, vous êtes le président de ce festival. On rappelle donc que la Rue des Enfants, le festival des arts de rue de Montcuq, eh bien c'est samedi 12 et dimanche 13 septembre. Ça commence à partir de 10h le matin. Les spectacles pour les petits et les grands, du théâtre, du cirque, des marionnettes, on l'a dit, de la danse, de la musique, et puis tout un village qui se transforme le temps d'un week-end en véritable scène à ciel ouvert. On espère qu'il ne pleuvra pas. En tout cas, toutes les informations et la programmation, la billetterie sont à retrouver sur le site de Les Arts de la Rue. Merci beaucoup Frédéric, à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Au revoir. Vous écoutez le Mag de Cahors sur CFM Radio. Passons à la deuxième partie, on va recevoir dans un instant l'association Amigrants. Alors, chaque année, il y a des femmes, des hommes qui arrivent dans le Lot. Après avoir fui leur pays, ils doivent tout reconstruire, apprendre une nouvelle langue, apprendre, comprendre les démarches administratives, trouver un logement, bien sûr, un travail également, et puis surtout retrouver une place dans la société. À Cahors, l'association Amigrants les accompagne dans ce parcours. Et pour en parler aujourd'hui, eh bien, nous avons invité Céline Gabet, qui est la coprésidente et cofondatrice de l'association, ainsi qu'un bénéficiaire très actif qui s'appelle Moussa. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, Céline, si vous voulez bien. Mm-hmm. Pour commencer, est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous présenter l'association Amigrants?
Oui. Alors, Amigrants, c'est pas Amigrants, c'est Amigrants.
Amigrants, pardon.
Parce que nous, on met en avant le mot ami avant tout, parce qu'on considère que ces personnes qui arrivent jusque chez nous sont nos amis. Et d'ailleurs, notre slogan, c'est l'étranger est un ami que vous ne connaissez pas encore. Donc nous, on a décidé de faire de ces personnes-là des amis. Et l'objectif de l'association, dès sa création, ça a été de promouvoir un accueil digne des personnes exilées sur notre territoire.
Effectivement, Amigrants, A-M-I en majuscule, et puis grand qui suit. Hein, vous avez bien fait de me corriger. Quelles sont les personnes que vous accompagnez aujourd'hui? Peut-on dresser leur profil en général? D'où viennent-elles? Quelles sont-elles ces personnes?
Alors on a tout type de profil. Nous justement, l'objectif de l'association, c'est de ne pas faire de distinction entre les personnes qui arrivent. On accueille tout le monde sans condition, c'est-à-dire sans condition administrative notamment.
Ouais.
Donc qu'elles aient des papiers ou qu'elles n'en aient pas, qu'elles soient demandeurs ou demandeuses d'asile ou personnes exilées pour d'autres raisons. Et alors après, en termes de nationalité, on a de tout. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui arrivent, malheureusement, depuis 2021, beaucoup d'Afghanistan. Je dis malheureusement pour elles, hein, surtout, parce que c'est des personnes obligées de fuir. Donc on a beaucoup de personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays pour différentes raisons, notamment la guerre ou des conflits. Donc Afghanistan, on a eu des Kurdes, on a eu des personnes... Bangladesh, voilà. Et ensuite, pays d'Afrique aussi. Là, depuis quelques années, pareil, des personnes qui viennent du Congo, des personnes d'Éthiopie, des personnes du Mali, etc. Voilà, vraiment, il y a...
Ce sont des personnes qui viennent seules, en famille, où il y a un petit peu tout ?
Alors, pareil, il y a de tout. On a des personnes qui arrivent seules, beaucoup de personnes qui arrivent seules, et de plus en plus, malheureusement aussi, de personnes qui fuient en famille, donc avec des enfants. Ou même, on commence à avoir de plus en plus de femmes seules avec des enfants.
L'association existe depuis ?
Alors, l'association en elle-même existe depuis 2017, et oui. Avant ça, nous étions un collectif.
D'accord. Et depuis 2017, vous parvenez quand même à les intégrer, enfin, entre guillemets, à notre société. Ils y parviennent ?
Alors nous, on parle d'inclusion, parce D'accord. que justement, notre objectif n'est pas de les intégrer avec toute la connotation.
Pardon du terme.
Excusez-moi, je rectifie, mais bon voilà, c'est juste parce que, en fait, les mots ont leur importance, parce que c'est pour ça aussi que nous, on parle de personnes exilées, qu'on fait très attention aux mots qu'on utilise, parce que notre objectif n'est pas de les forcer à adopter notre culture telle qu'on l'entend, mais nous, c'est vraiment un échange. Donc c'est de l'inclusion au sens où on leur apprend comment on vit ici, on les accompagne, on les aide à tout ce qui est démarche pour vivre ici, et on attend de ces personnes qu'elles nous présentent aussi comment elles vivent, qu'elles nous partagent leurs coutumes, leur culture, qu'on fasse des échanges. L'objectif d'un migrant, c'est la solidarité et l'échange, et le partage.
Surtout que hors antenne, vous m'avez dit quelque chose effectivement que je ne pensais pas, il y a aussi le problème... C'est bête, ce qu'on va dire, mais culinaire, effectivement. Des gens qui débarquent dans d'autres pays, ne mangent pas des lieux comme en France, ça peut aussi les bloquer, je comprends ça.
Imaginez juste que vous partez plusieurs semaines dans un pays étranger et vous avez souvent mal au ventre. Ces personnes-là, elles arrivent et puis elles sont obligées non seulement de s'adapter au climat, et en ce moment on peut en parler, au climat, à la culture, aux coutumes, à la langue. Elles ne comprennent pas du tout, pour certaines qui sont non francophones, ce qui se passe. Et en plus, on leur fait manger des ingrédients qui sont pas les leurs. Alors bien sûr, on s'y fait toujours à la longue, on s'y fait. Je pense que Moussa pourra le dire mieux que moi. Mais il faut aussi avoir conscience que tout est chamboulé, tout leur parcours de vie est chamboulé et tout est perturbé en fait.
Vous écoutez le Mac de Cahors et aujourd'hui, on parle de ces enfants, de ces femmes, de ces hommes qui arrivent dans le Lot après avoir fui leur pays, qu'on appelle des migrants. Ils deviennent ici des amis par le biais de l'association Amis Grands qui les accompagne dans un parcours pour apprendre notre langue, pour comprendre les démarches administratives, pour trouver un logement, voire un travail, et puis surtout retrouver une place dans notre société. Pour ce faire, nous avons invité bien sûr Céline Gabet, qui est la coprésidente et cofondatrice de cette association Amis Grands de Cahors, ainsi que Moussa, bénéficiaire de cette association, et très actif d'ailleurs au sein de cette structure.
CFM Radio, CFM.
Alors si tu permets Moussa, je vais te tutoyer, merci. Dis-moi, comment tu es arrivé en France ? Peux-tu nous raconter comment ça s'est passé ?
Bonjour CFM et merci de nous inviter aujourd'hui, de donner cette opportunité de s'exprimer sur Amis Grands et aussi sur notre parcours.
Oui.
Moi je suis journaliste tchadien, je suis cofondateur d'un média qui s'appelle flatchat.com. où je suis connu pour mon travail de journaliste défenseur des droits humains, où j'ai gagné un prix sur les droits humains. Et donc, mes activités n'ont jamais plu au gouvernement en place, et ce qui m'a causé beaucoup de tort. J'ai été persécuté, et donc j'ai été contraint de quitter mon pays par le Cameroun, via le Cameroun, avant de venir ici en France en septembre 2025. Grâce à la France, aujourd'hui, j'ai eu la protection. Après 7 mois d'attente, j'ai eu la protection et je suis là ici à Cahors et aussi membre actif de Amis Grands.
Donc tu écrivais des articles contraires au gouvernement en place, j'imagine, qui leur déplaisaient ?
Pas des articles contraires, mais des articles qui sont réels, sur des choses réelles, par exemple sur les violations des droits humains, les assassinats, les répressions, et aussi les reculs de la démocratie.
D'accord.
Et ce qui ne plaît pas au gouvernement en place, où j'ai été persécuté et j'ai été contraint de quitter mon pays.
Donc, tu es arrivé ici, et comment ça s'est passé après ? Raconte-nous ton intégration.
Quand je suis venu ici, j'ai été accompagné par un conseiller, ancien conseiller du président, ex-conseiller, aujourd'hui il est exilé. Et donc, grâce à lui, j'ai fait ma demande, j'ai introduit ma demande d'asile. Grâce aussi à RSF, j'ai été accompagné et voilà, j'ai eu aujourd'hui la protection. Et ici à Cahors, je suis venu en octobre 2025, où très vite, j'ai rencontré quelques Africains qui m'ont parlé des migrants. C'est des personnes qui sont bien, qui font de l'inclusion. Sinon, auparavant, moi, j'étais cloîtré dans ma chambre, donc je ne sortais pas. Du coup, je ne connaissais personne. Et grâce à migrants, je suis venu, j'ai rencontré des personnes. Des Français, des Africains, des Maliens, des Somaliens, en tout cas toutes les personnes de toutes les origines, des Afghans et aussi des Arabes. Donc merci, aujourd'hui je me suis intégré et je me sens ici en famille.
Mais ce sont des amis de ton entourage qui t'ont indiqué le lot ou c'est le hasard qui a fait les choses ?
Non, c'est ici on a l'office. L'office français de l'intégration, je crois un truc comme ça.
Oui.
C'est eux qui m'ont orienté de
Ah, c'est eux qui t'ont orienté ici ?
Oui, c'est eux qui m'ont orienté.
D'accord. Et donc, tu as pris contact avec l'association Amigrants ?
Via un ami.
D'accord, via un ami.
Oui.
Ok, ça se passe comme ça. J'ai vu, récemment, je change de sujet parce que tu vois, ça me vient à l'esprit en discutant. Je crois que c'est ces jours-ci, on a revu une nouvelle fois le fameux film Samba. Tu dois connaître le film, hein, peut-être pas, un formidable film qu'il faut absolument voir ou revoir, ce film avec Omar Sy qui joue effectivement le rôle d'un migrant, et là on voit effectivement les problèmes que vous rencontrez, et c'est tellement touchant, ce film. Bon, c'était une parenthèse, mais franchement une belle parenthèse malgré tout. Aujourd'hui donc tu es là depuis à peu près un an, si je comprends bien.
Bien sûr, depuis bientôt il y a une année.
Bon, tu parles très bien français, mais enfin en Tchad on parle français. Comment tu as trouvé ta place finalement? Comment tu la trouves, ta place, aujourd'hui ?
C'est vrai que, vous savez, quand vous quittez votre pays, quand vous quittez le vôtre, c'est difficile. C'est difficile de quitter le chez-soi. C'est difficile de se séparer de sa famille. C'est difficile de quitter le milieu où on se sent bien aimé, bien entouré. On l'a fait, c'est pas par plaisir, on l'a fait par contrainte. Donc, on est venu ici, c'est très difficile. Croyez-moi, c'est difficile aujourd'hui quand vous n'avez pas de famille à côté, quand vous n'avez pas des oncles, des tantes, ou quand vous n'avez pas le lieu où vous avez pour vous distraire souvent, où vous rencontrez, c'est difficile. Mais vous savez, la vie, elle est faite comme ça. Il faut accepter, il faut faire face. Et aujourd'hui, grâce à Immigrants, on est venu, on a trouvé Immigrants qui est devenu notre nouvelle famille, avec qui aujourd'hui on partage pratiquement tout. On s'est intégré dans la société française. On continue d'apprendre beaucoup de choses et voilà.
Quand tu dis tout, c'est-à-dire qu'on t'a trouvé un logement, on t'a trouvé une activité, c'est ça que je voudrais savoir. Ou bien tu es toujours effectivement dans un centre, entre guillemets, où les migrants s'y trouvent. C'est vrai que nous, là-dessus, on ne sait rien. Tu vois, on ne sait pas comment ça se passe.
Exactement. Ah oui, par rapport à un migrant, en fait, on a des activités sportives, des activités de loisirs.
Oui.
On a aussi des activités de langue, des codes de la route. Vous savez, le code de la route au Tchad et le code de la route en France, il y a une grande différence. Ici,
vous avez
les autoroutes. Chez nous, on n'a pas les autoroutes. Et donc, même les croisements, ce n'est pas la même chose. Et beaucoup de choses différencient. Donc, grâce à Immigrants, on a un cours de code de la route. On est en train d'apprendre comment circuler ici en France, quelles sont les déviations, c'est quoi le feu rouge, c'est quoi le feu vert. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, c'est grâce à ces formations-là, grâce à ces formations pratiques-là, théoriques. On a aussi des ateliers de jardin où on a des espaces verts ici, pas très loin d'ici, où on fait des activités agricoles. On a aussi des ateliers créatifs où on se rassemble, on fait des activités créatives. Au-delà de ça, il y a aussi le cours des français, pour ceux qui n'ont pas vraiment le verbe français, ils viennent pour y apprendre. Même pour nous qui avons déjà ces niveaux-là, le B.A.B.A., on vient pour apprendre, pour aller composer le 2CL, le diplôme de compétences en langue.
Donc nous, notre objectif, c'est qu'ils se sentent assez en confiance et qu'ils se sentent bien accueillis pour ensuite pouvoir mener leur vie sans nous, en fait. Alors nous, on est là toujours, tant que vous le voulez, mais l'objectif, c'est ensuite que les personnes puissent mener leur vie.
C'est ainsi que se termine le MAG de Cahors. Merci à tous les deux d'être venus. À bientôt. Au revoir.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.